Bonjour à tous, émission spéciale Orhan Pamuk, aujourd'hui à l'occasion de la venue du prix Nobel de littérature 2006 à Paris. L'auteur du Livre Noir, du Musée de l'Innocence, de Neige bien sûr en 2002 et d'un récit autobiographique, Istanbul, souvenir d'une ville, republié en ce moment en version illustrée. Il publie aujourd'hui Cette chose étrange en moi, un roman chez Gallimard, une fresque romanesque plutôt qui embrase tous les sujets de prédilection de l'auteur, la ville, la famille, l'amour, la société, en marchant dans les pas de Mevlut, un vendeur de rue. C'est un roman dans les murs d'Istanbul, ville-monde, qui explique, reflète les évolutions socio-politiques d'un pays, une variation autour de la figure de l'écrivain, une déclinaison autour d'Orhan Pamuk. C'est tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Cher Orhan Pamuk, je vous avais quitté perdu dans vos souvenirs d'une ville épidermique que vous avez tant aimée, glaneur mélancolique, collectionneur de sensations, archiviste de votre propre vie, de l'enfance à la plume. Je vous retrouve à Istanbul, toujours battant le pavé, dans les pas de Mevlut, votre héros ordinaire, né de votre imagination, double de fiction, débarqué de son Anatolie en 69 à 12 ans dans votre capitale littéraire, quand vous en avez 17. 5 ans vous séparent, mais pas seulement, et Istanbul vous réunit.
Istanbul, 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 c'est Constantinople, c'est à Istanbul, au Constantinople que je suis allé un jour pour y découvrir le grand amour que l'on attend toujours.
Le grand amour, l'avez-vous trouvé, le cherchez-vous encore? En tout cas, vous avez trouvé votre plume, vous avez trouvé les livres, vous avez trouvé la littérature. Ce cri de Dario Moreno, Istanbul, vous pourriez le refaire, j'imagine, et même peut-être avec encore plus de puissance. Orhan Pamuk, bonjour.
Dario Moreno was a big figure.
Dario Moreno était un personnage important dans les années 50 en Turquie parce que c'était le lien, il était un peu le lien entre la chanson française et puis la vie quotidienne en Turquie. Et puis il nous aimait, nous les Turcs, et il est l'un d'entre nous en quelque sorte. Et mon propre père avait des petits 45 tours de ce chanteur à la maison, et je connais très bien cette chanson, je l'écoutais dans mon enfance. Évidemment, ce qu'il nous dit, c'est pas les Turcs sont un peu les propriétaires de leur ville. C'est pas Byzance, c'est pas Constantinople, c'est Istanbul. C'est ce qu'il dit.
Comment le chantez-vous?
It's complexity.
C'est un peu complexe, mais ce que je voudrais, c'est que ma propre ville soit un peu une combinaison de l'Europe et puis de la culture traditionnelle. Je ne voudrais pas qu'elle soit uniquement islamique. Il faut qu'elle reflète la complexité de la culture européenne, mais sa traduction rend Istanbul unique en son genre. Tous mes romans en parlent.
On va parler d'Istanbul, on va parler de votre Istanbul, Orhan Pamuk. Je voudrais juste saluer aussi votre voix française, Robert Wolfenstein, merci d'être avec nous. Un récit que vous étendez sur 40 ans, Orhan Pamuk, une fresque que vous qualifiez de roman panoramique épique, 6 ans d'écriture pour ce livre qui s'inscrit sur un temps long. Vous l'avez vraiment conçu et pensé comme un puzzle, cette chose étrange en moi?
It's not that of a puzzle.
Alors, it's un puzzle, peut-être pas vraiment, mais en tout cas, oui, un roman épique, ça c'est sûr, parce que au début, ça ressemble à un roman, disons, classique entre guillemets, mais ensuite vous avez la narration à la première personne qui rend le discours plus vivant. Alors c'est l'histoire effectivement d'un vendeur de rue. C'est pas un roman typique de Pamuk, si je puis dire, dans la mesure où il n'est pas habité par la nostalgie, où il n'est pas en train de dire ah quelle belle ville qu'était Istanbul autrefois. Non, c'est une ville qui parle de l'activité économique, de la politique qui détruit des quartiers entiers, des luttes ethniques, la mafia, les tensions sociales, l'islam politique. Alors on parle également d'un certain bonheur chez nos personnages qui aiment sa femme, qui aiment sa vie de famille, tout en étant très pauvre. Voilà. Alors, oui, c'est le portrait, si vous voulez, d'une Istanbul contemporaine qui est vue à travers les yeux d'un personnage pauvre, donc un vendeur de rue, un migrant qui est venu à Istanbul en 1970 et qui veut y survivre, qui veut simplement gagner sa vie. Au début, mon personnage est très pauvre, et il construit son propre bidonville avec son père, avec sa famille. Mais ensuite, je trace la chronique de cette ville avec la prospérité économique. Tous ces quartiers, je les ai connus, j'y ai même habité, mais je les vois maintenant avec un certain recul. Et puis maintenant, j'entre carrément dans la maison de ces pauvres. Il a fallu beaucoup de travail, de préparation pour y arriver.
Je reviens sur la fabrique de l'écrivain avant d'en venir aussi au fond de ce livre. Ça devait être une nouvelle, Orhan Pamuk. C'est devenu un roman dense de plus de 700 pages. Peut-être que vous auriez pu continuer à l'écrire encore assez longtemps, ce roman. Comment sait-on quand un roman est terminé ?
I always make that
bonne question. Moi, je dis toujours une plaisanterie en disant que, au départ, j'ai commencé ce roman de même que James Joyce avait commencé à écrire Ulysse comme une nouvelle. Et c'est devenu 900 pages de roman épique. Alors, on entre dans tous les détails d'une ville. Alors, on ne sait jamais à quel moment le roman s'arrête. Tôt ou tard, c'est votre éditeur qui vous dit « Non, non, ça suffit, c'est trop long, on arrête là. » Effectivement, c'est un roman assez long. Et là, c'est une version déjà abrégée. Mais ce que je voulais faire, c'est surtout raconter une simple histoire de vie d'un vendeur de rue. Au départ, ça devait être une nouvelle, mais d'où vient-il? Qu'est-ce qu'il mange à la maison? Comment s'est-il enfui avec son épouse? Et toutes sortes de questions. Quels sont ses amis politiques? Pourquoi est-ce que ses cousins sont des nationalistes, d'autres des communistes? Vous avez des amis chiites et marxistes. Enfin, il participe à des conférences d'un cheikh soufi. Alors, j'ai voulu parler de tout cela, de faire le tour du monde de ces pauvres qui errent dans les rues d'Istanbul, la vie de tous les jours. Et jusqu'ici, dans Istanbul, dans le Musée de l'Innocence, je parlais de la classe moyenne occidentalisée, laïque. C'est pas de cela que je parle ici. Ici, mon personnage, il a sa religion. Alors, ce n'est pas un islamiste, mais de bien des façons, il a besoin de la religion et on comprend pourquoi. Vers le roman.
Oui, d'ailleurs, ce roman est à la fois un prolongement et un contre-pied, un prolongement de votre premier roman, Sevdet Bey et ses fils, paru en 82 en Turquie, en 2014 en France, dont l'histoire s'est tirée de 1905 à 1970, en suivant trois générations d'une famille de riches commerçants d'Istanbul. Chronologiquement, cette chose étrange en moi, ce nouveau roman prend sa suite. Vous reprenez quelque part le cours de l'histoire, là où vous l'avez laissé, et ce nouveau roman couvre plutôt la période à partir de 70, de 60 à 2012. Et c'est aussi un contre-pied, puisque vous quittez le charme discret de la bourgeoisie, comme aurait dit Buñuel, pour les bas-fonds d'Istanbul. Fini les intérieurs en apparence bien rangés, vous rejoignez ici le tumulte de la rue. C'est un grand roman populaire, votre premier grand roman populaire, Orhan Pamuk.
Oui, et je vous remercie de le souligner, parce qu'effectivement, c'est un peu le contre-pied de mon premier roman. Le premier roman, quand même, aussi, il ressemblait, puisqu'il était très long, 600 pages, c'était aussi la chronique d'une famille, mais la première famille était comme la mienne, c'est-à-dire classe moyenne, bourgeoise, laïcisée, sécularisée, tournée vers l'Occident. Alors que ici, j'entre dans le détail d'une famille moyenne, même la classe, même pauvre, qui vient du village. Et Istanbul, vu à travers ses yeux, est évidemment très différent de l'Istanbul de mon premier roman, Sevdet et ses fils. Mais pourtant, le personnage arpente les mêmes quartiers et il vend de la boza ou du yaourt à la famille, ou famille bourgeoise, si vous voulez. Mais là, on voit le monde de l'autre point de vue. Donc c'est un peu une démarche balzacienne, puisque la démarche ou le sujet, l'histoire est la même, mais les personnages qui la racontent sont différents. Et En même temps, quand on écrit des romans, c'est précisément pour cela, pour voir le monde du point de vue de l'autre. Hein. C'est cela qui rend la chose intéressante, de trouver un peu d'empathie à travers ces personnages-là, voir le point de vue des autres, les religions des autres. Et puis, d'une certaine façon, nous sommes en quelque sorte dans la même barque puisque nous partageons ce même Istanbul.
Voir le monde, Orhan Pamuk, dans les yeux de votre personnage, Mevlut, à hauteur d'homme, mais aussi voir comment le temps s'étire, parfois presque très lentement, à hauteur d'une vie, d'une simple vie. D'ailleurs, vous joignez à l'attention du lecteur, à la fin du livre, une chronologie qui mêle la micro-histoire, celle de ce vendeur ambulant, à la grande histoire mondiale. On y retrouve l'exode rural en Turquie, la construction de mosquées, des élections, la chute du mur aussi, les référendums, les guerres. C'est-à-dire que vous prenez quelques dates importantes de l'histoire de l'Europe et du monde, mais aussi des dates importantes pour l'histoire de la Turquie. Et dans le corps même du roman, en revanche, les grands événements, ces grands événements ne sont relatés qu'à travers des micro-épisodes, des anecdotes, par le détail, par l'infime, dans les yeux des personnages. On peut donner peut-être un exemple ainsi de Mohini, qui est un camarade de classe de Mevlut, au sujet du coup d'État de 71 en Turquie. Je vous cite. « La conséquence politique la plus grave du coup d'État de 1971 dans notre école, c'est qu'on nous imposa de nous couper les cheveux, nous qui luttions héroïquement contre les professeurs pour les regarder longs. C'était une catastrophe qui fit couler beaucoup de larmes parmi les lycéens à la belle chevelure, aussi bien chez le fils de médecins, d'employés et de fonctionnaires qui étaient fans de musique pop que chez les gamins venant des quartiers de Gesekundu. Pendant les cérémonies du drapeau, le lundi, le directeur vilipendait régulièrement les garçons comme les chanteurs européens dégénérés, mais c'était qu'après le coup d'État, avec l'arrivée des militaires dans notre école, qu'il réussir à mettre leurs menaces à exécution.
Oui, c'est intéressant. Pour ce roman, j'ai fait beaucoup de recherches. Alors, pour ce détail, je ne suis pas entré dans le détail à ce point-là, mais c'est vrai que mes camarades de cheveux longs fuyaient la police. Et puis, même on regarde avec une certaine nostalgie, il y avait même des indiques qui vous dénonçaient parce que vous aviez les cheveux longs et vous étiez réprimandé. Alors, c'est vrai que les idées... les militaires des années 70 étaient peut-être un peu simplistes, mais pas les cheveux longs. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le but du roman n'est pas tellement de montrer la continuité dans la vie d'Istanbul. En fait, au départ, je ne suis pas nostalgique. Ce n'est pas un roman de nostalgie sur une Istanbul passée. Mon personnage est un nouvel arrivant dans la ville et il veut simplement y gagner sa vie. Et il participe au changement de la ville, il survit dans la ville. Au début, je ne m'étais pas identifié à ce personnage, mais vers la fin, lorsqu'il a quand même passé 40 ans dans cette ville, il a vu tous ces bâtiments qui ont changé, ces appartements là où il vendait, ces immeubles où il vendait son sabosa, son yaourt, vous aviez des quartiers entiers qui ont changé, la ville a changé, et il, comme moi, il ressent un peu la même chose, et c'est là que je m'identifie à mon personnage. Il estime que finalement, son temps est passé. C'est-à-dire que ses mémoires, ses souvenirs ont disparu et la ville dans laquelle il a passé 40 ans, cette ville où il était chez lui, eh bien, devient peu à peu une espèce d'univers bétonné et évidemment, ça l'attriste, même s'il n'est plus pauvre. Il a son propre appartement, il est content de pouvoir y vivre, il se sent, disons, à l'aise, mais pas heureux. Peut-être comme moi.
Un grand invité de cette grande table, Orhan Pamuk, romancier, écrivain turc, l'écrivain d'Istanbul, avez-vous d'ailleurs dit, prix Nobel de littérature en 2006 pour son nouveau roman « Cette chose étrange en moi » qui vient de paraître chez Gallimard. Il est midi et quart sur France Culture.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Tu deviendras un homme qui voit tout et un homme que l'on ne voit pas, lui dit son père, dit le père de Mevlut en le formant au métier de vendeur. À la manière de Dickens, Orhan Pamuk, vous avez changé de classe pour écrire ce roman. Vous êtes parti à la rencontre des vendeurs de rue dans des villages d'Anatolie aussi. Vous avez beaucoup parlé avec des chauffeurs de taxi. Vous avez changé de quartier, changé de vie. Ce volet enquête, rencontre, mi-anthropologue, mi-reporter, avant que l'écriture et la fiction ne reprennent le dessus. On imagine qu'il vous a beaucoup plu. Vous avez réussi à vous rendre invisible, vous-même, pendant l'enquête, pour donner à voir.
C'est une excellente question parce qu'effectivement, comme vous le soulignez, il a fallu beaucoup de recherches puisque moi-même je suis issu de la classe moyenne, de la classe bourgeoise, et là je parle de la vie du prolétariat dans les rues d'Istanbul. J'ai fait ce travail de recherche, mais je suis en même temps très fier du personnage, pas de la recherche, parce que la recherche est nécessaire pour ne pas se tromper dans les détails, mais une partie de la recherche qui m'a vraiment plu pendant que j'écrivais d'ailleurs, je me rendais dans des quartiers lointains d'Istanbul, je me suis documenté sur cette ville qui évoluait très, très rapidement. Enfin, je ne connaissais pas ces quartiers, je voulais les voir de mes yeux, donc je m'y suis rendu, suivi d'un garde du corps nommé par l'État pour entrer dans des cours où normalement on n'a pas accès ou entrer dans des lieux peut-être dangereux. Et j'ai pu voir de mes yeux ma propre ville qui évoluait très rapidement. Souvent, je faisais l'aller-retour avec les États-Unis. Au retour d'un semestre à l'université, je découvrais ma ville complètement méconnaissable. Et là, je voulais justement parler de ce changement, de cette transformation d'Istanbul. Puis il y a autre chose. Lorsque l'on crée un personnage de tous les jours, on veut que le roman lui-même soit différent. Hein, parce que la magie de Mevlut, c'est le fait qu'il est peut-être différent. Le regard qu'il porte sur Istanbul est différent. Mais il faut voir que dans la description d'Istanbul, vous avez un océan de détails, mais il faut avoir un personnage que l'on peut reconnaître, auquel on peut s'ancrer pour tout le récit. Et vers la fin du roman, ayant vécu moi-même 6 ans avec ce personnage et comment pu m'identifier à lui, et je suis arrivé au point où je peux dire que Mevlut, le personnage principal de mon roman, eh bien c'est moi.
Mevlut, c'est vous, donc Orhan Pamuk. Mais quand vous vous rendez donc à la rencontre de cette autre Turquie, de cet autre Istanbul que vous dites connaître peu, en tout cas à l'époque, vous y allez comme Orhan Pamuk, vous vous présentez comme tel avec votre garde du corps.
Oui, et les gens me connaissaient, et quelquefois ça m'a beaucoup aidé dans les entretiens, dans les interviews, parce que vous aviez des gens très mécontents qui alors vidaient leur sac en disant « Oui, dites bien ça, ceci, cela, racontez ça dans votre roman. » Et il y en avait d'autres qui avaient peur de me parler, ou peut-être qu'ils ne m'aimaient pas, je ne sais pas. Ça marchait dans les deux sens. Et c'est toujours assez bien de pouvoir rencontrer quelqu'un de nouveau. Et s'ils ne me reconnaissaient pas, très bien, ça ne me posait pas de problème. J'étais un inconnu, mais évidemment, s'ils m'avaient reconnu à la télévision, bon, ils pouvaient me parler, ils me demandaient, surtout, prenez des notes, écrivez bien tout cela. Hein. Est-ce que mon cousin peut également vous parler, etc. Donc il y avait des gens qui étaient vraiment très, très disposés à me parler, et on les retrouve dans mon roman. Il y en a qui étaient mécontents, en colère, sur le plan politique ou pour d'autres raisons, qui avaient peur d'insulter le président, donc qui restaient discrets. Mais dans ce roman, justement, l'intérêt, c'est de retrouver tous ces détails, partager un repas avec quelqu'un, raconter à sa femme avec enthousiasme ce qu'on a vécu ce jour-là. Moi, je suis ce genre de personnage.
Mais vous voilà dépositaire de cette parole, de ces mots qu'on vous a confiés. Quelle responsabilité par rapport à ça? Quelle est la responsabilité de l'écrivain? Parce que quand vous recueillez toutes ces paroles, vous n'êtes pas journaliste.
C'est une seule responsabilité qui est esthétique. Ma seule responsabilité, c'est d'écrire un bon roman. Ensuite, il y a la responsabilité du citoyen devant la situation politique, la solidarité avec d'autres écrivains. Vous savez qu'il y a certains de mes amis qui sont en prison. Ça, c'est vrai. Mais d'abord et surtout, je suis écrivain. Ce que j'essaye de faire, c'est d'écrire un beau livre. J'y ai consacré 6 années de ma vie.
Et vous sublimez le réel à travers la poésie. C'est aussi une manière de transformer ce réel que vous avez vu et d'en faire roman au Orhan Pamuk.
Oui, c'est juste. Il y a cette sublimation. Et d'ailleurs, même les détails de la vie quotidienne sont d'une telle richesse qu'il faut les convertir en quelque chose de poétique, effectivement. Alors, effectivement, c'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle il m'a fallu toutes ces années pour l'écrire, parce qu'à la fin, vous avez tous ces petits détails. Alors, je me suis peut-être aidé par d'autres chercheurs, mais au bout du compte, une équipe. Mais mes personnages, comment deviennent-ils beaux? Si on veut inventer un personnage réellement poétique, tous mes efforts ont été consacrés sur Mevlut. Je suis un petit peu Mevlut moi-même.
Ils deviennent beaux comment? En les rendant complexes quelque part aussi. Est-ce que pour vous, Orhan Pamuk, les personnages primes. Est-ce que vous les avez chacun pensées, ciselées, travaillées les uns par rapport aux autres, avec une idée de complémentarité?
Alors, et ça, oui, et ça, ça n'est pas un travail de recherche, hein, parce que bien sûr, je peux me rendre dans des usines, voir les fabricants de yaourts, me renseigner sur ces détails. Mais là, la recherche ne m'aide pas pour rendre beau mes personnages, même qu'on voit, on voit la télévision. Vous voyez un personnage qui tout d'un coup dit quelque chose de nouveau. Et ça, on n'a pas besoin de recherche pour inventer un personnage. Alors, par contre, il faut de la patience. Et puis, l'art du roman, c'est un petit peu cela. Hein? Julien Sorel, ou l'idiot de Dostoïevski, ou le Candide de Voltaire, tous ces personnages étaient un peu naïfs à leur façon, mais il y a une naïveté politique, une naïveté philosophique, une naïveté culturelle. Mais enfin, avec tout cela, avec toute cette littérature, moi, j'ai inventé mon Mevlut.
C'est un roman polyphonique, cette chose étrange en moi, Orhan Pamuk, écrit à la première personne et à la troisième personne du singulier. De toutes ces paroles que vous avez recueillies, comment le romancier travaille ensuite avec cette matière? Je trouve que la langue que vous employez dans ce roman reste une langue très ciselée, très travaillée, une très belle langue, la langue d'Orhan Pamuk. Vous n'avez pas choisi d'adopter, même dans les dialogues, un phrasé populaire. Vous n'avez pas choisi de travestir votre écriture pour faire écho de ces langues-là.
Oui, et effectivement, c'était une question pour moi, parce qu'il y a une trentaine d'années, lorsque les romanciers sociaux imitaient les accents, tout cela, je trouvais ça faux. J'ai mené tellement d'entretiens, et le langage de ces entretiens, je l'avais sous les yeux. Mais avec la télévision, maintenant, vous avez une Turquie qui s'est homogénéisée, les accents disparaissent, depuis 20 ans, finalement, on a affaire à quelque chose de beaucoup plus standard. Non, le problème est ailleurs. Au départ, c'est un roman dickensien, alors référence au 19e siècle, mais il manquait quelque chose dans cette période contemporaine. Eh bien, c'était justement le langage employé par mes personnages, ceux que j'interviewais. Ouais, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il y en a qui étaient fiers de leur succès, par exemple économique. Il y en a qui étaient très contents de raconter leur succès en langage quelquefois également assez brut. Mais par rapport à ça, je me suis dit, comment je gère tout ça? Et je me suis dit, il faut combiner la première et la troisième personne. Dans la première personne, vous avez un style un peu à la Faulkner. Et ça marchait. Et puis, enfin, j'espère que ça a pu marcher.
C'est un roman aussi sentimental, Orhan Pamuk, cette chose étrange en moi. Et c'est aussi à cela que sert la fiction. Tu as des sentiments, mais comme tous les hommes turcs, tu ne sais pas les exprimer, dit-on dans votre livre. C'est un récit à cœur ouvert. Vous êtes aussi allé explorer cette sentimentalité turque.
Mais oui, Mevlut est typique de. C'est le pauvre urbain classique hein, pour la démographie turque. Il est assez rare, par exemple, dans la Turquie traditionnelle, que les garçons et les filles puissent rencontrer avant le mariage. Alors lui, il voit une fille de loin, et alors c'est une espèce de cristallisation stendhalienne de son amour, hein, qu'il protège. Il écrit des lettres d'amour, lettre après lettre pour prouver sa flamme hein, à cette fille qu'il a vue de loin. Mais on voit dès le début, on lui a joué un mauvais tour. Quand il veut s'enfuir avec cette fille, on lui en fourgue une autre. Enfin, mais ça, c'est un peu la clé du roman. Comment survivre hein, dans ce genre de situation et surtout, s'enfuir avec une fille, ça, ce genre d'enlèvement, c'est une façon de résister à sa famille, à ses parents, à la doctrine sociale qui arrange le mariage pour vous. Là, vous avez un marchand de yaourt qui m'a dit, je l'avais interrogé de manière un peu provocante, comment avez-vous épousé votre femme? Alors, je m'attendais à ce qu'il dise, c'était un mariage arrangé. Non, on était amoureux, on s'est enfui. Et vous voulez dire, voilà, hein, c'était une espèce de critique sociale de toute cette famille, de toute cette tradition.
Parce qu'il y a tous les cas de figure, et d'ailleurs l'une des trois sœurs choisit aussi de vivre librement librement son amour. Mevlut, lui, va tomber sincèrement amoureux de celle qu'il va épouser par erreur. Vous le racontez en ouverture de ce roman. Ensemble, ils auront par la suite deux filles. Elle va vraiment devenir sa boussole, sa femme. Il y a trois sœurs, comme chez Tchekhov, et puis comme chez vous aussi, puisque votre mère avait deux sœurs. Le portrait de votre mère, celui de vos deux tantes, vous a beaucoup inspiré, avez-vous déjà raconté pour ce roman. Trois portraits, en tout cas, dans ce livre, qui montrent une condition féminine encore fragile en Turquie. La question de la difficile émancipation des femmes, le poids encore aussi de l'honneur sur les mariages. Mais ce qu'on voit surtout, Orhan Pamuk, c'est qu'une fois encore dans cette ville d'Istanbul, les traditions coexiste avec la modernité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des mondes cloisonnés, il y a aussi tout ce qui vient du passé et qui, petit à petit, essaye de se fondre dans cette nouvelle Istanbul.
The key to Mevlut's happiness,
et oui, et la clé du bonheur de Mevlut, c'est aussi la clé du succès de mon livre en Turquie, eh bien, c'est que Mevlut est très gentil avec sa femme. C'est un villageois, c'est un garçon issu des milieux très pauvres. Il ne va pas ensuite regarder la télé après le dîner. Il reste avec sa femme parce qu'il a une véritable amitié pour sa femme avant que ce ne soit de l'amour. Et une autre originalité de ce personnage, parce que bien souvent les hommes n'ont pas de relation particulière, certainement pas amicale avec leur femme, ils sortent entre hommes boire du thé. Mais là, je dis un peu en plaisantant que c'est mon premier roman féministe. Et d'ailleurs, j'avais fait un peu de promotion de ce livre en Turquie, et lorsque j'ai dit que j'étais féministe, les femmes au premier rang m'ont applaudi lorsque j'ai dit que je voulais devenir un peu féministe après l'âge de 60 ans. Mais ce contre quoi je résiste, c'est le stéréotype de la femme opprimée. Les contraintes islamiques, les femmes qui sont écrasées, opprimées par les hommes dans cette région du monde. Mais en même temps, ce sont des êtres humains, des femmes qui résistent. Ces filles, ensuite, s'enfuient avec le garçon de leur vœu. Elles se moquent de leur mari, elles se disputent avec leur mari. Et la plupart de ces femmes sont des personnages plus forts que leur mari. Pour survivre, il le faut. Elles sont souvent plus fortes que leur propre mari. Moi, j'avais une maman qui avait une sœur aînée, une sœur cadette. Et lorsque les trois se retrouvaient, elles plaisantaient, elles étaient ravies de se moquer de leur mari respectif. Bien sûr, elles résistaient. Alors, Mevlut, pour des raisons politique, culturel. Évidemment, il est différent de ma mère et de ses sœurs, mais cet esprit de liberté, l'ironie, la colère exprimée, et souvent une colère très joyeuse, on le retrouve dans mon livre.
Et alors, les telenovelas, les feuilletons ont énormément de succès en Turquie. L'amour, on a peut-être du mal à formaliser, exprimer ses sentiments, mais l'amour est un grand sujet, bien sûr, universel, Orhan Pamuk, et puis on le retrouve dans les chansons turques, on le retrouve aujourd'hui encore dans votre roman, dans la littérature turc. Vous restez avec nous, Orhan Pamuk. On se retrouve pour la deuxième partie de la Grande Table. Dans une vingtaine de minutes, vous êtes notre invité spécial jusqu'à 13h30.